Deuxième chapitre. Première sortie. Monsieur Patissot travailla mal toute la semaine à son ministère. Il rêvait à l'excursion projetée pour le dimanche suivant, et un grand désir de campagne lui était venu tout à coup, un besoin de s'attendrir devant les arbres, cette soif d'idéal champêtre qui hante au printemps les Parisiens. Il se coucha le samedi de bonne heure, et dès le jour, il fut debout. Sa fenêtre donnait sur une cour étroite et sombre, une sorte de cheminée où montaient sans cesse toutes les puanteurs des ménages pauvres. Il leva les yeux aussitôt vers le petit carré de ciel qui apparaissait entre les toits, et il aperçut un morceau de bleu foncé, plein de soleil déjà, traversé sans cesse par des vols d'hirondelles qu'on ne pouvait suivre qu'une seconde. Il se dit que, de là-haut, elle devait découvrir la campagne lointaine, la verdure des coteaux boisés, tout un déploiement d'horizon. Alors une envie désordonnée lui vint de se perdre dans la fraîcheur des feuilles. Il s'habilla bien vite, chaussa ses formidables souliers et demeura très longtemps à sangler ses guêtres dont il n'avait point l'habitude. Après avoir chargé sur le dos son sac bourré de viande, de fromages et de bouteilles de vin, car l'exercice assurément lui creuserait l'estomac, il partit, sa canne à la main. Il prit un pas de marche bien rythmé, celui des chasseurs, pensait-il, en sifflotant des airs gaillards qui rendaient plus légère son allure. Des gens se retournaient pour le voir. Un chien jappa. Un cocher, en passant, lui cria « Bon voyage, monsieur Dumollet !» Mais lui s'en fichait carrément, et il allait sans se retourner, toujours plus vite, faisant d'un air crâne le moulinet avec sa canne. La ville s'éveillait joyeuse dans la chaleur et la lumière d'une belle journée de printemps. Les façades des maisons luisaient, les serins chantaient dans leurs cages, et une gaieté courait les rues, éclairait les visages, mettait un rire partout, comme un contentement des choses sous le clair soleil levant. Il gagnait la Seine pour prendre l'hirondelle qui le déposerait à Saint-Cloud. Et, au milieu de l'ahurissement des passants, il suivit la rue de la Chaussée-d'Antin, le boulevard, la rue Royale, se comparant mentalement aux Juifs errants. En remontant sur un trottoir, les armatures ferrées de ses chaussures, encore une fois, glissèrent sur le granit et, lourdement, il s'abattit avec un bruit terrible dans son sac. Des passants le relevèrent et il se remit en marche, plus doucement, jusqu'à la Seine, où il attendit une hirondelle. Là-bas, très loin, sous les ponts, il la vit apparaître, toute petite d'abord, puis plus grosse, grandissant toujours, et elle prenait en son esprit des allures de paquebot, comme s'il allait partir pour un long voyage, passer les mers, voir des peuples nouveaux et des choses inconnues. Elle accosta et il prit place. Des gens endimanchés étaient déjà dessus, avec des toilettes voyantes, des rubans de chapeaux éclatants et de grosses figures écarlates. Patissot se plaça tout à l'avant, debout, les jambes écartées à la façon des matelots, pour faire croire qu'il avait beaucoup navigué. Mais comme il redoutait les petits remous des mouches, il s'arc-boutait sur sa canne afin de bien maintenir son équilibre. Après la station du point du jour, la rivière s'élargissait, tranquille sous la lumière éclatante, puis, lorsqu'on eut passé entre deux îles, le bateau suivit un coteau tournant dont la verdure était pleine de maisons blanches. Une voix annonça le Bas-Meudon, puis Sèvres, enfin Saint-Cloud, et Patissot descendit. Aussitôt sur le quai, il ouvrit sa carte de l'état-major pour ne commettre aucune erreur. C'était du reste très clair. Il allait par ce chemin trouver la selle, tourner à gauche, obliquer un peu à droite, et gagner, par cette route, Versailles, dont il visiterait le parc avant dîner. Le chemin montait et Patissot soufflait, écrasé sous le sac, les jambes meurtries par ses guêtres et traînant dans la poussière ses gros souliers plus lourds que des boulets. Tout à coup, il s'arrêta avec un geste de désespoir. Dans la précipitation de son départ, il avait oublié sa lunette marine. Enfin, voici les bois. Alors, malgré l'effroyable chaleur, malgré la sueur qui lui coulait du front, et le poids de son harnachement, et les soubresauts de son sac, il courut, ou plutôt il trotta vers la verdure, avec de petits bonds comme les vieux chevaux poussifs. Il entra sous l'ombre, dans une fraîcheur délicieuse, et un attendrissement le prit devant les multitudes de petites fleurs diverses, jaunes, rouges, bleues, violettes, fines, mignonnes, montées sur de longs fils, épanouies le long des fossés. Des insectes de toutes couleurs, de toutes les formes, trapus, allongés, extraordinaires de construction, des monstres effroyables et microscopiques, faisaient péniblement des ascensions de brins d'herbe qui ployaient sous leur poids. Et Patissot admira sincèrement la création. Mais comme il était exténué, il s'assit. Alors il voulut manger. Une stupeur le prit devant l'intérieur de son sac. Une des bouteilles s'était cassée dans sa chute assurément, et le liquide, retenu par l'imperméable toile cirée, avait une soupe au vin de ses nombreuses provisions. Il mangea cependant une tranche de gigot bien essuyée, un morceau de jambon, des croûtes de pain ramollies et rouges, en se désaltérant avec du bordeaux fermenté, couvert d'une écume rose désagréable à l'œil. Et quand il se fut reposé plusieurs heures, après avoir de nouveau consulté sa carte, il repartit. Au bout de quelque temps, il se trouva dans un carrefour que rien ne faisait prévoir. Il regarda le soleil, tâcha de s'orienter, réfléchit, étudia longtemps toutes les petites lignes croisées qui, sur le papier, figuraient des routes, et se convainquit bientôt qu'il était absolument égaré. Devant lui s'ouvrait une ravissante allée dont le feuillage un peu grêle laissait pleuvoir partout sur le sol des gouttes de soleil qui illuminaient des marguerites blanches cachées dans les herbes. Elle était allongée interminablement et vide et calme. Seul un gros frelon solitaire et bourdonnant la suivait, s'arrêtant parfois sur une fleur qui l'inclinait et repartait presque aussitôt pour se reposer encore un peu plus loin. Son corps énorme semblait en velours brun, rayé de jaune, porté par des ailes transparentes et démesurément petites. Patissot l'observait avec un profond intérêt quand quelque chose remua sous ses pieds. Il eut peur d'abord et sauta de côté. Puis, se penchant avec précaution, il aperçut une grenouille, grosse comme une noisette, qui faisait des bonds énormes. Il se baissa pour la prendre, mais elle lui glissa dans les mains. Alors, avec des précautions infinies, il se traîna vers elle, sur les genoux, avançant tout doucement, tandis que son sac, sur son dos, semblait une carapace énorme et lui donnait l'air d'une grosse tortue en marche. Quand il fut près de l'endroit où la bestiole s'était arrêtée, il prit ses mesures, jeta ses deux mains en avant, tomba le nez dans le gazon, se releva avec deux poignées de terre et point de grenouille. Il eut beau chercher, il ne la retrouva pas. Dès qu'il se fut remis debout, il aperçut là-bas, très loin, deux personnes qui venaient vers lui en faisant des signes. Une femme agitait son ombrelle et un homme, en manche de chemise, portait sa redingote sur son bras. Puis la femme se mit à courir, appelant « Monsieur, monsieur !» Il s'essuya le front et répondit « Madame, monsieur, nous sommes perdus !» Tout à fait perdu. Une pudeur l'empêcha de faire le même aveu, et il affirma gravement « Vous êtes sur la route de Versailles !»« Comment sur la route de Versailles ? Mais nous allons à Rueil !» Il se troubla, puis répondit néanmoins effrontément « Madame, je vais vous montrer, avec ma carte d'état-major, que vous êtes bien sur la route de Versailles !» Le mari s'approchait. Il avait un aspect éperdu, désespéré. La femme, jeune, jolie, une brunette énergique, s'emporta dès qu'il fut près d'elle. « Viens voir ce que tu as fait. Nous sommes à Versailles maintenant. Tiens, regarde la carte d'état-major que monsieur aura la bonté de te montrer. Sauras-tu lire seulement ? Mon Dieu, comme il y a des gens stupides ! Je t'avais dit pourtant de prendre à droite, mais tu n'as pas voulu. Tu crois toujours tout savoir !» Le pauvre garçon semblait désolé. Il répondit « Mais ma bonne amie, c'est toi !» Elle ne le laissa pas achever et lui reprocha toute sa vie, depuis leur mariage jusqu'à l'heure présente. Lui tournait des yeux lamentables vers les taillis, dont il semblait vouloir pénétrer la profondeur, et, de temps en temps, comme pris de folie, il poussait un cri perçant, quelque chose comme « Tite !» qui ne semblait nullement étonner sa femme, mais qui emplissait Pâtissot de stupéfaction. La jeune dame, tout à coup, se tournant vers l'employé avec un sourire, « Si monsieur veut bien le permettre, nous ferons route avec lui pour ne pas nous égarer de nouveau et nous exposer à coucher dans le bois. » Ne pouvant refuser, il s'inclina, le cœur torturé d'inquiétude et ne sachant où il allait les conduire. Ils marchèrent longtemps. L'homme toujours criait « Tite !» Le soir tomba. Le voile de brume qui couvre la campagne au crépuscule se déployait lentement et une poésie flottée, faite de cette sensation de fraîcheur particulière et charmante qui emplit le bois à l'approche de la nuit. La petite femme avait pris le bras de Pâtissot et elle continuait, de sa bouche rose, à cracher des reproches pour son mari qui, sans lui répondre, hurlait sans cesse « Tite !» de plus en plus fort. Le gros employé, à la fin, lui demanda « Pourquoi criez-vous comme ça ?» L'autre, avec des larmes dans les yeux, lui répondit « C'est mon pauvre chien que j'ai perdu !»« Comment, vous avez perdu votre chien ?»« Oui, nous l'avions élevé à Paris. Il n'était jamais venu à la campagne. » Et quand il a vu des feuilles, il fut tellement content qu'il s'est mis à courir comme un fou. Il est entré dans le bois, et j'ai eu beau l'appeler, il n'est pas revenu. Il va mourir de faim là-dedans. Tite ! La femme haussait les épaules. Quand on est aussi bête que toi, on n'a pas de chien. Mais il s'arrêta, se tâtant le corps fiévreusement. Elle le regardait. Eh bien quoi ? Je n'ai pas fait attention que j'avais ma redingote sur mon bras. J'ai perdu mon portefeuille. Mon argent était dedans. Cette fois, elle suffoqua de colère. « Eh bien, va le chercher !» Il répondit doucement. « Oui, mon ami, où vous retrouverai-je » Pâtissot répondit hardiment. « Mais à Versailles !» Et, ayant entendu parler de l'hôtel des réservoirs, il l'indiqua. Le mari se retourna et courbait vers la terre que son œil anxieux parcourait, criant « Tite !» À tout moment, il s'éloigna. Il fut longtemps à disparaître. L'ombre plus épaisse l'enveloppa et sa voix encore de très loin envoyait son «
Tite !»
lamentable, plus aigu à mesure que la nuit se faisait plus noire et que son espoir s'éteignait. Pâtissot fut délicieusement ému quand il se trouva seul, sous l'ombre touffue du bois, à cette heure langoureuse du crépuscule, avec cette petite femme inconnue qui s'appuyait à son bras. Et pour la première fois de sa vie égoïste, il pressentit le charme des poétiques amours, la douceur des abandons et la participation de la nature à nos tendresses qu'elle enveloppe. Il cherchait des mots galants qu'il ne trouvait pas d'ailleurs. Mais une grande route se montra, des maisons apparurent à droite, un homme passa. Pâtissot, tremblant, demanda le nom du pays. « Bougival !»«
Comment ? Bougival ? Vous êtes sûr ?»«
Parbleu, j'en suis !» La femme riait comme une petite folle. L'idée de son mari, perdu, la rendait malade de rire. On dîna au bord de l'eau, dans un restaurant champêtre. Elle fut charmante, enjouée, racontant mille histoires drôles qui tournaient un peu la cervelle à son voisin. Puis au départ, elle s'écria « Mais j'y pense, je n'ai pas le sou puisque mon mari a perdu son portefeuille. » Pâtissot s'empressa, ouvrit sa bourse, offrit de prêter ce qu'il faudrait, tira un louis, s'imaginant qu'il ne pourrait présenter moins. Elle ne disait rien, mais elle tendit la main, prit l'argent, prononça un merci grave, qu'un sourire suivit bientôt, noua en minaudant son chapeau devant la glace, ne permit pas qu'on l'accompagnât, maintenant qu'elle savait où aller, et partit finalement comme un oiseau qui s'envole, tandis que Pâtissot, très morne, faisait mentalement le compte des dépenses de la journée. Il n'alla pas au ministère le lendemain, tant il avait la migraine.